Amis de Radio Courtoisie, chers auditeurs, chères auditrices, je suis ravie de vous retrouver pour cette édition, la énième, oh, ça fera bientôt, oui, plusieurs mois, de La Tête Hors de l'Eau. Alors, je vais commencer évidemment par vous dire qu'aujourd'hui, nous préférerions, mon invité et moi, avoir la tête dans l'eau, étant donné la terrible chaleur qui s'est abattue sur Paris, où nous ne trouvons heureusement le petit bocal de Radio Courtoisie à une climatisation. Donc, je vous rassure, nous allons survivre pendant cette heure et demie. Nous allons d'autant plus survivre que, compte tenu de la chaleur, j'ai pris un seul invité et non pas deux comme d'habitude. Eh, mais quel invité ! Alors, mon cher ami, est-ce qu'on peut se tutoyer ? On se connaît depuis qu'on a 20 ans. On ne va pas dire de quelle année, hein, mais voilà. depuis qu'on a 20 ans. Voilà.
C'était le siècle dernier.
Voilà. Donc, mon ami Pierre Chazeran, ici présent, donc pour un livre, le deuxième qu'il écrit, le premier il l'avait écrit avec Isabelle Chazeran qui se trouve être sa femme et une très chère amie de moi également, et donc ils avaient écrit un livre qui s'appelait « Osons la rencontre », ce qui était déjà tout un programme. Ils sont allés tous les deux dans les quartiers, comme on dit, mais pas les quartiers du sud où ils habitent, ils sont en plus venus au nord, ils sont venus à... vous étiez où déjà ?
Au Mureau,
voilà. Et au Mureau, ils ont passé un certain temps. Nous en parlerons si nous avons le temps aujourd'hui, mais aujourd'hui, nous allons plutôt nous focaliser sur le livre « Pères et pèlerins », sous-titré « 50 ans du pèlerinage des pères », et qui est préfacé par Monseigneur Ray, qui, il n'y a pas si longtemps, était encore dans le Var comme évêque. Je bombarde archevêque parce qu'il le mérite, mais bon. Édition DMM, je ne sais pas ce que c'est, mais voilà, édition DMM, Compagnon de Joseph.
Ça, c'est une coédition. DMM, Dominique, c'était l'ancienne maison d'édition Dominique Martin-Morin.
Ah, voilà, très bien. Oui, tout à fait.
Qu'un copain a racheté et il a gardé DMM.
Tout à fait. Alors, il y a un autre sous-titre. Quand j'ouvre la première page, la page de garde, 1976-2020, on va savoir combien on est vieux, c'est terrible. Fallait pas l'écrire. Vraiment, Pierre, oui. Fallait pas. 1976-2026, 50 ans de Pélé des Pères. Bon, on dit pas qu'on était au début, enfin bon, on le dit peut-être, enfin bref, c'est pas grave. Donc, ceci rentre dans une... comment dire, pas une trilogie, puisqu'il n'y en a que deux, on ne dit pas une bilogie, comment on dit
Une suite, une brève.
Voilà, une suite que j'essaye d'établir entre les émissions du mercredi et du jeudi, puisqu'il s'agit en réalité, bien sûr, de la même émission et de la même personne qui fait l'émission. Et donc, il n'y a pas si longtemps, j'ai fait le beau et le laid, donc le beau le mercredi et le laid le jeudi. Et là, aujourd'hui, je fais le bien et le mal. Et grande chance, mon cher Pierre, eh bien, tu seras le bien. Le mal, ce sera demain avec mon ami Franck.
Dark Vador.
Mon ami Franck Bulleux qui se verra incarner le bien, le mal, pardon, avec son livre sur une demoiselle Dior qui avait plutôt mal tourné. Ah. Et donc nous verrons ça demain. Donc oui, alors j'ai parlé dans l'introduction, enfin plutôt dans l'annonce de ça, j'ai parlé du parfum des vertus, le parfum des vertus, et j'ai vu dans ton livre que, eh bien, pour une fois, j'imitais le pape François, car le pape François parle volontiers du parfum de Jésus-Christ, et donc je suis assez contente d'avoir choisi finalement cette présentation aujourd'hui, le parfum des vertus, qui j'ai mis le bien ou quand le parfum des vertus est plus fort que l'odeur fétide de la paresse ou de la peur.
Oh.
Hein? Bien. Hein?
C'est bien. Ouais. Bon. C'est bien.
Donc, je vais faire mon petit édito. Tout de même, nous avons le temps puisque justement, je n'ai qu'un seul invité et donc j'ai le temps de parler un petit peu avant.
J'écoute.
Alors, les mots à la mode. Moi, j'aime bien les mots à la mode. Ça me fait toujours rire parce que c'est vrai et les gens ne se rendent même pas compte que c'est à la mode et ils les emploient tout le temps quand on écoute la radio et la télévision. Les deux mots à la mode, c'est lunaire et solaire. Alors, ce qui se passe en France au plus haut de l'État jusqu'en bas, c'est lunaire. Mais la femme qui vient en parler, par exemple, est solaire. Voilà, dans les médias, on entend. Voilà. La justice nous apparaît un peu comme lunaire, ces temps-ci. Dès que vous avez la preuve qu'il y a une escroquerie quelque part, j'en parle savamment, eh bien, la justice met 2 ans avant de sévir, si bien que l'escroc a eu largement le temps de mettre toutes ses petites affaires de manière à ce qu'on ne puisse plus le saisir. Ne parlons pas, évidemment, des enfants violés et massacrés dont on nous parle, et c'est justice, pour le coup, à longueur de médias. Donc, voilà, lunaire et solaire, bon. Voilà. Alors, une bonne nouvelle quand même, parce qu'il y en a de temps en temps, hein, le comité de déontologie des magistrats a déclaré que ce métier n'était pas compatible avec l'appartenance à... Allez, Pierre. Ah. Pas à l'Église catholique.
À la franc-maçonnerie.
Voilà. À la franc-maçonnerie. Alors, depuis Pétain, personne n'avait osé dire ça. Lui, il avait carrément arrêté. Bouf. Donc, il est vrai, hein, il est vrai, si on veut bien sortir justement de la politique et de savoir qui est quoi, il est vrai que, et je l'ai constaté moi-même d'ailleurs à l'université, il est vrai que lorsque des gens ont des accointances et qu'ils doivent juger, que ce soit juger des copies à l'université ou juger de la vie des gens ou de leur emprisonnement ou de leurs amendes, eh bien, il serait souhaitable qu'ils ne soient pas que leur décision ne soit pas conditionnée par l'appartenance à une société secrète. C'est quand même la moindre des choses, à mon avis. Mais bon. Alors, quand on dit ça, on vous répond, mais ça a beaucoup changé. Alors peut-être, je ne sais pas. J'avoue que je ne fréquente pas très bien les loges, donc je ne sais pas. Alors, il y a 3 jours, c'était la fête des pères. C'est aussi pour ça que j'ai invité Pierre, non seulement parce qu'il venait terminer son livre, donc c'est tout à fait à propos, mais aussi parce que c'était la fête des pères. Alors, c'est une tradition très ancienne, datant du Moyen-Âge. Au 15e siècle, le 19 mars est devenu la date officielle de la célébration de Saint-Joseph, père adoptif de Jésus, dont nous allons parler aujourd'hui. C'est ainsi que cette date est devenue la date de la fête des pères et reconnue comme dans plusieurs pays catholiques, notamment en Espagne, au Portugal et en Italie. En Chine, il n'existe pas de fête des pères officielle. Certains la célèbrent le 3e dimanche de juin, suivant la tradition américaine. C'est un comble. Constatant la nécessité d'honorer les pères dévoués comme le sien, Sonora Smart Dodd entreprit une campagne active pour instaurer la fête des pères pendant de la fête des mères. Et la première célébration eut lieu donc le 19 juin 1910 à Spokane, grâce notamment au soutien de YMCA, Voilà. Et de nombreuses églises. Donc ça, c'était aux États-Unis, 1910, très en retard sur nous quand même, hein, 5 siècles. Bon. Avec l'appui de son église, d'ailleurs, Sonora Dodd organise la première Father's Day le 19 juin 1910. Peu à peu, l'idée est reprise dans l'ensemble du territoire américain. Depuis, la fête des pères est célébrée le troisième dimanche de juin. Donc nous avons suivi la tradition américaine et non pas la tradition qui voulait que ce fût le 19 mars pour honorer Saint-Joseph. Alors, et en plus, ce n'est qu'en 52 que la fête des pères a été instaurée en France, la fête des mères ayant été instituée à 40, comme tout le monde certainement le sait. Elle a été officialisée, elle n'a pas été officialisée comme la fête des mères, qui elle a été vraiment officialisée, elle a été officialisée par Flaminaire, un fabricant de briquets à des fins commerciales. L'entreprise proposa une promotion sur les briquets, estimant que c'était le cadeau parfait pour les papas. On en est loin, hein. Bonjour les écolos. Pour les papas qui étaient à l'époque de gros fumeurs. Et elle a lancé une campagne publicitaire avec le slogan « Nos papas nous l'ont dit, pour la fête des pères, ils désirent tous un Flaminaire ». Pas beau ça? Cette campagne a eu un grand succès et contribué à instaurer la tradition de la fête des pères et aussi celle des gros fumeurs. Voilà. En Corée du Sud, la fête des parents est une fête spéciale où les enfants expriment leur amour et leur respect envers leurs parents. Au lieu de célébrer séparément la fête des pères et la fête des mères. Voilà, la Corée célèbre les deux parents ensemble. Le respect des parents est une valeur fondamentale en Corée. Voilà. Alors, c'est la fête des pères. C'était la fête des pères le 21. Malheureusement, ce n'était pas que la fête des pères. C'était aussi la fête de la musique. Ah là, de la musique avant toute chose. Et pour cela, préfère l'impair, plus vague et plus soluble dans l'air, sans rien en lui qui pèse ou qui pose. Voilà. Eh bien, dimanche 21, ça a pesé. Ça a posé. C'était à Paris, en tout cas. Je ne dis pas. Je ne sais pas ce qui s'est passé ailleurs, mais à Paris, il faut dire que ça a été un petit peu lourd. Il faut dire aussi que désormais, toute fête, que ce soit celle des calendriers, la fête du foot ou la fête du slip, se solde par l'assaut, par la sacro-sainte diversité de préférences jeunes et audacieuses contre tout ce qui bouge. Hein. Au hasard, contre des journalistes présumés fachos, contre la police que tout le monde déteste, d'après eux, mais aussi contre le salaud de bourgeois qui s'inquiète pour sa BMW flambant neuve, dont le pare-brise vient déjà de céder sous les énormes fesses d'un pacifique manifestant ou d'une pacifique manifestante qui hurle parce qu'on les lui a piqués, les fesses. Faut suivre. Hein. Bon. Il est dégueu. Non, je vois que mon invité s'endort déjà. C'est l'heure de la sieste, Pierre, mais on ne doit pas s'endormir. Nous sommes à l'antenne. Et donc voilà, il s'attaque aux choses, ces choses inanimées dont on se demandera toujours si elles ont une âme. C'était ma première disserte en cinquième, donc je m'en souviens encore. Objets inanimés, avez-vous donc une âme qui s'attache à notre âme et la force d'aimer? Voilà. Je me souviens plus ce que j'ai répondu par contre. Hein. Alors, les voitures d'abord. Hein. Donc les vitres explosées, les pneus crevés, etc., etc. Mais pas seulement, les fontaines Wallace, les abribus, le mobilier urbain, comme on dit, hein, tout ça, eh bien ça leur fait au fond l'offense de se retrouver sur leur chemin, c'est ça. Hein. Alors la musique, bon, il y en avait, si on peut appeler musique, ce bruit à déchirer les tympans jusqu'à 5h du matin, que j'ai personnellement entendu là où je me trouvais. Mais il y en a eu, bien sûr, notre ami Laurine, d'ailleurs, Martinez, a chanté le 21 au soir. Elle a chanté a cappella, c'est une chanteuse lyrique qui nous fait le plaisir de venir souvent dans cette émission. Et donc, voilà, il y a eu tout de même de la musique. Ne dites pas que je ne dis que des choses négatives. Mon Dieu, pas du tout, loin de moi, cette pensée. Alors, certains ont même piqué une tête dans le canal Saint-Martin, d'autres sont allés vomir sur les pavés des vieilles rues du Marais, et donc les farments des propriétaires des commerces faisaient plaisir à voir, enfin plaisir à voir, non, bien sûr que non, c'était une façon de parler. C'est encore pire que le soir du foot, encore pire, toujours pire. Ce ne sont plus les feuilles mortes, mais les déchets qui se ramassent à l'appel. Des déchets parfois trop gros pour l'appel d'ailleurs, comme ces mortiers pour faire des tirs du même nom, c'est grand comme comme un, enfin, comme je sais pas quoi, comme un aspirateur. Voilà. Bref, les fêtes sont devenues carnage. De civilisées, elles sont devenues sauvages. Elles sont devenues barbares. On est obligé de se contenter de fêtes privées. Et quand on a, comme Pierre Chazeran ici présent, plein d'enfants et encore plus de petits-enfants, voire bientôt d'arrière-petits-enfants, non, j'exagère, eh ben, on peut faire des fêtes privées, hein.
Ouais.
Vous êtes combien quand vous faites une fête privée?
Oui, une petite quarantaine.
Voilà, c'est ça. Alors, dans la société actuelle, pour les pères, c'est pas la fête tous les jours. La journaliste sportive France Pierron est suspendue d'antenne après ses propos sur les pères et l'accouchement sur l'Équipe TV, où elle a donc désapprouvé le Belge Jérémy Docu, qui a annoncé qu'il quitterait provisoirement le Mondial pour assister à l'accouchement de sa femme. Alors elle a dit « Tu as de la chance de participer à une Coupe du Monde, il y a des centaines de footballeurs qui tueraient pour être à ta place ». Et tu vas quitter tout ça pour assister à la naissance de ton enfant, qui est un moment dégueulasse, excuse-moi, et où le papa ne sert à rien.
Oh.
J'espère c'est que tu es scandalisé,
vrai.
Pierre.
C'est pas vrai.
J'espère.
C'est plus difficile pour nous les hommes que pour les femmes.
Il ne sert à rien, et elle a ajouté, il a un rôle de figurant. Bon, d'accord, c'est pas lui qui accouche, ça
sûr.
On est d'accord.
C'est
mais
sûr.
Bon. Cet échange a déclenché, tout de même, ce qui est plutôt une bonne nouvelle, cet échange a déclenché un tsunami de réactions outrées. Donc c'est pas mal, finalement, hein. France Pierron est menacée, insultée. Elle jure qu'elle ne voulait pas minimiser le rôle des pères. Non, non, pas du tout. Elle ne voulait pas du tout. Alors, pour terminer cette petite revue d'actualité qui essaye de rendre sympathique des actualités qui ne sont pas toujours, je voudrais, et j'espère que mon invité ne m'en tiendra pas rigueur, je voudrais rendre hommage à ce jeune élu Rassemblement National qui a dit « Je vous salue Marie » dans un conseil municipal qui, soi-disant, d'après ce que disait précisément le maire, ce conseil municipal, le maire de ce conseil municipal était opposé à la laïcité. Il l'avait dit très très fort et c'était bien parce qu'il y avait des jeunes femmes voilées qui du coup avaient dit « Ouais, c'est chouette !» Et donc lui, il a dit « Vous êtes vraiment opposé à la laïcité. » Bon, bah alors il a sorti sa croix et puis il a récité donc le « Je vous salue Marie ». Donc voilà, bravo à ce jeune homme. Il faut, oui, si c'est pas laïque, bah alors tout le temps, n'est-ce pas ? Bon. D'ailleurs, moi je raconte dans ce livre que personne ne lit, mais qui est très bien quand même, qui s'appelle « La France, Colin Maillard » et que j'ai publié il y a un an, que je me suis levée aussi face à un gentil garçon hein, qui ne cessait de me répéter « Allah est grand » pendant une demi-heure sans s'arrêter. Alors je me suis levée, j'ai dit « Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Dieu et Jésus-Christ, son Fils, Jésus-Christ, Fils de Dieu. » Voilà. De temps en temps, il faut réagir, n'est-ce pas ? Bon. Alors, nous allons maintenant arriver à ton livre, donc. Alors, c'est un livre qui est tout à fait charmant, donc je recommande fortement la lecture de nos auditeurs, parce que il raconte des choses merveilleuses, mais il les raconte avec de l'humour, avec de la légèreté, et donc si bien que on peut à la fois y croire et à la fois ne pas se dire oh là là, mon Dieu, mais c'est que des bondieuseries là-dedans. Voilà, c'est pas du tout que des bondieuseries, c'est très très bien. Alors c'est l'histoire d'un trou perdu, comme dit Pierre, d'un trou perdu où une fois de plus, la Vierge Marie a décidé d'apparaître à des gens tout à fait simples. Vraiment, elle ne fait pas partie de la jet set, hein, la Sainte Vierge, hein, c'est un peu quand même bon.
Pas des énarques.
et donc elle est apparue, alors cette histoire est très ancienne, n'est-ce pas ? Elle est très ancienne et à la page 29 de ce livre, donc je rappelle « Pères et pèlerins » de Pierre de Chazeran, tu nous racontes, cela se passe le 10 août 1519. Jean de la Baume est un jeune bûcheron de 22 ans qui seconde son père, notamment dans l'exploitation et l'entretien d'une forêt de chênes verts sur le mont Verdaille qui domine le village de Cotillac. Eh bien ce jour-là, je ne vais pas tout lire, mais bon, ce jour-là, qu'est-ce qui se passe ?
Eh bien, il se passe qu'il a... Le ciel s'éclaire et il a une apparition de la Vierge.
Elle apparaît avec un bébé dans les bras. Elle a le soleil pour manteau et la lune sous les pieds, comme on dit dans Apôtre 12.1. elle lui sourit. Deux hommes sont à ses côtés. Tous sont si beaux, ont l'air si beaux que sa frayeur se transforme en une paix profonde. Et donc, allez dire, dit-elle, au clergé et au consul de Cotignac de me bâtir ici même une église sous le vocable de Notre-Dame des Grâces et qu'on y vienne en procession pour recevoir les dons que je veux y répondre. C'était très clair, hein, une phrase courte mais claire. Il est quand même un peu dubitatif. Il hésite quand même un petit peu, mais il se demande s'il n'a pas rêvé, puis que vont dire ses parents, que vont dire ses amis, etc. Et puis finalement, eh bien, il va se décider. Et il va dire, voilà, Notre-Dame veut une chapelle et des processions. Et donc ça, c'est le début de cette longue histoire. Les travaux de construction commencent le 14 septembre 1519, jour de la fête de l'exaltation de la Sainte-Croix. Les bâtisseurs, commençant les fondations de cette église, trouvèrent en terre grande quantité d'ossements, de clous de ferraille, de boîtes d'ivoire et une boule de beau cristal, ce qui leur fit croire qu'il y avait là des martyrs enterrés. Oh, alors ça, ça a dû les doper. Donc c'est le début de cette histoire. Alors quand as-tu appris cette histoire en fait?
Après l'apparition, évidemment, j'étais étudiant à Aix et je croise deux copains qui, exténués, me disent qu'ils reviennent de Cotignac. Et je leur dis, mais c'est quoi Cotignac? Et ils me disent, Cotignac, le vœu de Louis XIII. Parce que cette histoire de Cotignac, ces apparitions sont très en lien avec l'histoire de France.
Ah, alors que dit le vœu de Louis XIII?
Alors ce qu'il faut savoir, c'est quand la Sainte Vierge est à Paris, elle avait un bébé dans les bras, et en fait c'était Louis XIV. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que le roi Louis XIII n'avait pas de descendant mâle, la reine avait fait quelques fausses couches, et le roi et la reine se désolaient, le royaume se désolait. Il y avait beaucoup de prières et il y a eu une première, je crois, locution d'une brave dame à Paris. Ça a été remonté jusqu'au roi. La Vierge demandait que le roi consacre le royaume à Marie. Bon, il n'y avait pas trop cru. Richelieu lui avait pas mal cru parce que Richelieu était friand de surnaturel, et puis ensuite voilà qu'il y a un frère fiacre qui donc a une apparition de la Vierge Marie, et la Vierge Marie lui confirme que il faut que le roi consacre le royaume à Marie et qu'il aura un descendant. Voilà, je fais un peu court. Mais c'est comme ça que ça s'est passé. Et alors, il y a eu un signe qui a été donné, c'est que le fier fiacre a vu, pendant l'apparition, il a vu un tableau qui était à Cotignac, qui était dans la chapelle de Cotignac, et donc il le décrivait très précisément. Donc le roi a demandé à l'évêque de Marseille, je ne crois pas qu'il était cardinal à l'époque, de venir enquêter subrepticement, sans rien dire, pour voir, pour que l'évêque lui décrive le tableau. Donc tout ça, ça a dû prendre quelques temps, parce qu'il n'y avait pas encore Internet. Ils étaient malheureux en ce temps-là, hein, ils n'avaient pas Internet. Et donc voilà, bref, l'évêque de Marseille a confirmé que la vision du frère fiacre était la bonne. Et donc concrètement, le frère fiacre a fini par faire la neuvaine à Notre-Dame de Grâce. Et Louis XIV, donc la neuvaine s'est terminée, je crois, le 5 septembre, et Louis XIV est né le 5... Enfin bref, est né 9 mois après, pile poil, après la fin de la neuvaine qu'a fait le fer fiacre. Et donc, il s'appelle Louis Dieudonné. Donc, il y a un rapport très fort entre l'histoire de Cotignac et l'histoire de France.
Alors, je vais me faire le plaisir de lire un peu quand même ce vœu de Louis XIII, parce qu'il est formidable. Déclarons que prenant la très sainte et très glorieuse Vierge pour protectrice spéciale de notre royaume, nous lui consacrons particulièrement notre personne, notre état, notre couronne et nos sujets, la suppliant de nous vouloir inspirer une sainte conduite et défendre avec tant de soin ce royaume contre l'effort de tous ses ennemis, que soit qu'il souffre le fléau de la guerre ou jouisse de la douceur de la paix, que nous demandons à Dieu de tout notre cœur, il ne sorte point des voies de la grâce qui conduisent à celle de la gloire. Et afin que la postérité ne puisse manquer à suivre nos volontés à ce sujet, pour monuments et marques immortelles de la consécration présente que nous faisons, nous ferons construire de nouveau le grand autel de l'église cathédrale de Paris, avec une image de la Vierge qui tienne entre ses bras celle de son précieux Fils descendu de la croix. Nous serons représentés au pied du Fils et de la Mère, comme leur offrant notre couronne et notre sceptre. Donc, et c'est toujours là, c'est ça qui est incroyable.
Toujours là, oui,
extraordinaire. Ouais, c'est... Et alors, bien c'est... Nous admonestons le sieur archevêque de Paris et néanmoins lui enjoignons que tous les ans, le jour et la fête de l'Assomption, il fasse faire comme commémoration de notre présente déclaration à la grand-messe qui se dira en son église cathédrale et qu'après les vêpres du 10 jours, il soit fait une procession en la dite église à laquelle assisteront toutes les compagnies souveraines et le corps de la ville avec pareille cérémonie que celle qui s'observe aux processions générales plus solennelles. On imagine bien le maire de Paris actuel.
C'est je crois que la, les archevêques à Paris continuent cette tradition le 15 août, hein, je crois.
Ouais.
Il y a quelques paroisses en France où on le fait aussi, mais je crois que oui.
Alors donc, une histoire fort ancienne et qui va ressurgir au XXe siècle, en fait, au XXIe oui. siècle même. Alors, ce qu'il faut aussi savoir, ce que tu dis très bien dans ce livre, c'est que cette histoire donc, du 10 août 1519 intervient 2 ans après que Martin Luther a affiché sa constitution d'Augsbourg le 8 octobre 1517 avec ses 80 thèses, dont 40 seront récusées comme étant hérétique. Et il faut remarquer que dans le luthérianisme, de manière générale dans le protestantisme, il n'y a pas de dévotion à Marie, c'est-à-dire que les grâces passent directement de Dieu jusqu'au croyant et qu'elle n'est pas intercessrice, hein, c'est ça.
C'est ça, en fait, quand Marie dit à Notre-Dame de Grâce, je veux que les gens viennent en pèlerinage recevoir les dons, les grâces que je veux répandre, ça arrive au moment où il y a tout un courant, d'abord protestant et ensuite janséniste, qui nie à Marie tout rôle de co-rédemption pour le salut de l'humanité. C'est-à-dire que l'Église dit que Marie est co-rédemptrice. Co-rédemptrice, ça veut
oui,
dire que
bien sûr.
Le rédempteur, c'est Jésus, et elle est co-rédemptrice. Donc c'est fort. Et ça, c'est nié par les protestants comme par les jansénistes. Et c'est à ce moment-là que Marie apparaît pour affirmer qu'elle est médiatrice de toute grâce.
Alors, on comprend bien avec le protestantisme, et je le savais. Par contre, avec le jansénisme, ça m'a beaucoup étonné. Moi, j'aime beaucoup les jansénistes.
Ça ne m'étonne pas de toi.
Depuis que j'ai été visiter cet endroit merveilleux qui est Port-Royal des Champs.
Oui.
Et j'étais très triste de la manière dont Louis XIV a traité ses pauvres sœurs qui ont été éjectées, etc. Mais néanmoins, je n'avais pas réfléchi à cela. Effectivement, il y avait un problème de prédestination qui faisait qu'effectivement, Marie ne pouvait pas, dans un sens, être associée,
oui.
Être associée à la
ouais.
grâce qui ne se mérite pas, qui est accordée, qui ne se mérite pas.
Voilà.
Un peu comme
et en fait, c'est le fameux Cornelius Janssen, je ne sais pas comment on prononce, il a donc écrit un traité sur cet aspect-là qui s'appelle l'Augustinus, qui a été publié à titre posthume et dans lequel il explique que et ça rejoint, c'est assez amusant, ça rejoint quand même l'islam, c'est-à-dire que le.
Oh non, pitié.
Je refuse. C'est pas parce que pour Royal c'est joli que le jansénisme c'était
non,
c'est
Pascal,
tout beau.
Non, ni Pascal, ni Racine n'étaient musulmans, je regrette. Bref, vas-y.
Et donc le comment dire le tu m'as fait perdre le
oui, voilà,
fil.
Oui, voilà, il y a un seul Dieu comme chez les musulmans.
Et voilà, et donc comme dans l'islam, les musulmans se sauvent à la force du poignet. Et dans le jansénisme, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'il n'y a pas la grâce qui vient aider au salut des hommes, et ce qui fait que dans le jansénisme, peut s'en sauver parce qu'on ne peut pas se sauver tout seul.
Mais il y a la grâce quand même, mais elle n'est pas conçue de la même façon.
Non, mais la grâce, c'est l'homme qui va la chercher, quoi. C'est pas Dieu qui la donne.
Bah oui, mais enfin, on peut avoir l'idée que ça peut être Dieu qui la donne. Je veux dire, c'est une. Voilà.
Ouais.
Elle existe ouais. quand même, c'est ce que ouais. je veux dire.
J'aurais dû venir avec un goupillon et de l'eau bénite dans ce studio.
Bref, Bref, donc, aucune de ces deux... Voilà, dans ces deux cas, il n'y a pas... Et bien entendu, non plus dans l'islam, même s'il y a une Maria, une Mariam, elle n'a pas du tout, effectivement, le même rôle.
Mais non, mais c'est clair. Ouais.
Et évidemment, ne parlons pas du judaïsme, qui ne l'a pas non plus. Donc, alors, le livre continue et rappelle, effectivement, que la contre-réforme, ce qu'on a appelé la contre-réforme, est allée... essentiellement contre le protestantisme naissant et qui s'est développé assez vite dans les pays du Nord, notamment en Allemagne. Et la contre-réforme, moi, ce que j'en connaissais surtout, c'est Sainte Thérèse d'Avila et Saint Jean de la Croix, surtout Sainte Thérèse d'Avila, qui a donc prié les jeunes filles de bonne famille qui voulaient se faire religieuses d'enlever leurs chaussures et de remettre les sandales d'origine, et qui a donc fondé toute une série de couvent dont on sait la valeur et la réputation. Et donc c'est rappelé dans le livre, le Concile de Trente aussi, de 1563, qui effectivement...
Oui, qui restaure la place de Marie, entre autres choses, dans l'art, dans la peinture, dans la sculpture. Voilà, ça c'est intéressant.
Oui, effectivement, ouais. J'avais pas.
C'est intéressant, oui, avant.
Je savais pas ça.
L'Assomption, c'était Marie qui voltait, puis elle était souvent représentée en tenue de l'époque, c'est-à-dire en grande dame. Voilà, on la recadre.
Ah oui.
Et elle reprend sa place fondamentale et non plus anecdotique.
Mais quand même, elle monte toujours sur son petit nuage.
Oui, elle monte, mais il n'y a pas les. Les petits anges en tutu rose et compagnie.
Il y a les tableaux anciens quand même. Moi, c'est très intéressant ça. La représentation dans l'art religieux, la représentation de
Marie,
personnes.
Il y a toute une émission à faire là-dessus.
C'est
assez extraordinaire.
Et donc, il est rappelé dans le livre, la première intervention, moi ça m'a toujours beaucoup plu, les noces de Cana, j'ai toujours trouvé ça extraordinaire. Et c'est-à-dire, donc elle va voir son fils, elle lui dit non plus de vin, et il lui dit mais attends, mon heure n'est pas venue. Et elle sait qu'il va le faire, c'est ça? Elle a l'intuition qu'il va quand même le faire, et elle dit au servant, faites ce qu'il vous dira. Et qu'est-ce qu'il fait? Il va chercher l'eau des ablutions, quoi. Ça, c'est formidable. Il les change en vin. C'est-à-dire que moi, quand je dis qu'il n'est pas venu changer la loi, quand on dit qu'il n'est pas venu changer la loi, je suis un peu dubitatif quand même, parce que ça devait être assez mal vu que l'eau des ablutions.
L'accomplir.
Oui.
En fait, c'est vrai que c'est les premiers pas de Marie, si je puis dire, dans l'Évangile. Après quand même la naissance et le tout début. Mais dans ses premiers pas, Marie intervient pour l'humanité. Faites ce qu'il vous dira.
Oui, tout à
donc
fait.
Elle est bien co-rédemptrice.
Alors, il y a des pages très, très touchantes pour nous, les femmes, dans ce livre, de tous ces hommes qui révèrent Marie, qui est une femme. Hein, on ne peut pas dire le contraire. Ouais. Bon, même si c'est la mère de Dieu, c'est quand même une femme. Et donc, voilà, vous l'aimez tous quand vous faites ce pèlerinage, c'est quand même la figure centrale, c'est quand même... Donc il y a des très belles pages que je ne vais pas vous lire ici, mais...
Non, sinon personne ne lira le livre.
Mais enfin, il faut quand même remarquer, moi je dis ça, une femme qui dit ça, que c'est la femme parfaite, elle est toujours vierge, elle est chaste, elle est vertueuse, elle est absolument... Donc... C'est quand même, c'est plus facile, je dirais, pour les hommes d'aimer Marie que d'aimer une femme.
Mais, d'ailleurs, je mets dans le livre, je ne sais pas quelle page, je cite Lalanne.
Oui, Francis alors justement, Lalanne. J'ai cherché à trouver sa chanson, mais on ne l'a
pas.
Ce
n'est pas une chanson, c'est en fait, il a donné un spectacle.
Ah, d'accord.
Il a donné un spectacle et sur Joseph et sur Marie, et il cite... il fait parler Joseph, mais il faut que je retrouve le passage. Il fait parler Joseph dans le village de Nazareth qui regarde passer Marie. Et Joseph est amoureux de Marie. C'est très beau ce passage.
Ah, il faut le lire un petit peu parce que
ben oui, mais il faut le retrouver.
Moi, je ne l'ai même pas lu. Alors, Francis Lalanne. Ça doit être avant la page 46, en tout cas.
Ouais, attends. Voilà.
Alors, pendant ce temps-là, je continue puisque. À la radio, on ne fait pas de blanc.
À la page 41.
Ah, voilà,
41,
parfait.
À la page 41, je lis.
Oui.
Alors, c'est Joseph qui la voyait passer dans les rues du village. Il voyait passer Marie. Oh, je la regardais. C'est vrai, je le confesse. jamais sous l'emprise de je ne sais quel désir, mais parce qu'en la regardant, j'avais le sentiment de boire la lumière. Marie. Son nom comme une étoile, toujours dans mes pensées. Déjà petite, elle éclairait tout ce qui l'approchait. Marie la silencieuse, Marie la secrète, Marie la distraite, ailleurs et pourtant là. Marie savait le geste ou le mot qui soulage et son premier regard était toujours pour l'autre. Son regard, oui, son regard, cette lumière qui s'allume avec le jour et prend l'aube dans nos cœurs comme un soleil de l'altitude. Cet élan vers l'azur qui nous apaise en nous rendant nos ailes d'ange. Son regard, oui, son regard, Marie était tout entière son regard, témoin de nos prières. Je croyais être seul au monde lorsque ses yeux baissaient les miens. Entre autres génies, elle avait celui de nous rendre à nous-mêmes, dans le miroir de sa clarté, Marie, ce nom qui libérait nos mains, nos cœurs, nos rêves. Voilà, Joseph amoureux de Marie. Et je pense que ça devait être vrai.
Oui, c'est très joliment dit en tout cas. Je savais pas que tu avais fait ça à la fin.
Le livre de Francis Lalanne a beaucoup ému Jean-Paul II.
Ah oui?
Ouais, Jean-Paul II l'a lu et...
Francis Lalanne qui continue son activité et qui déborde sur la politique, hein, si j'ai bien compris. Donc, je ne savais pas
C'est magnifique.
Qu'il avait fait ça. Et j'ai pensé que c'était une chanson. C'est pour ça qu'on a cherché tout à l'heure une chanson de... Mais non, il n'y en avait pas. Là, c'était quoi comme spectacle alors?
Ça y est, il l'a donné. Ah ouais. C'est pas tout
c'était
jeune.
Longtemps,
hein,
c'était longtemps.
Ça date de...
Ah oui, sous Jean-Paul II, effectivement. Oui.
Ça date de... 1995.
D'accord.
Il y a eu une réédition du livre en 2021.
Alors, à propos de Joseph, il y a donc un deuxième aspect des choses qui est la rencontre de Gaspard. Gaspard, le 16 juin 1660, va rencontrer Joseph.
Et voilà.
Et Joseph va lui dire, parce qu'il a très très soif, alors on sent dans la description d'ailleurs, on sent le pèlerin qui lui-même a souffert. Gaspard est monté avec ses bêtes très haut, il a soif, il fait très très chaud, il est là, il a la tête dans les mains et voilà, il est comme on est dans ces cas-là, un peu à douter de tout et de ce qu'on va pouvoir faire surtout. Et donc, il entend la voix de Joseph qui lui dit « Soulève ce rocher et tu boiras ». Ça, voilà. C'est extraordinaire.
Moi, j'imagine la scène, il est désespéré. Il y a un gars qui arrive qui lui dit « Soulève le rocher et tu vas boire ». Et voilà, je suppose qu'il émanait une telle douceur de cet homme qui lui demandait de soulever le rocher que finalement, il a essayé de le soulever et il a réussi. Et second miracle,
La source
a coulé, elle coule toujours.
Il y a une source.
La source. Alors qu'il faut connaître cet endroit du Bessillon, c'est sec, hein, c'est très sec, il n'y a jamais eu d'eau.
C'est au-dessus du village alors ?
C'est au-dessus du village, il y a le village qui est en contrebas. Et
par rapport au sanctuaire, c'est dans le sanctuaire maintenant ?
Non, c'est-à-dire que le sanctuaire est plutôt à l'est, au sud-est, et le Saint-Joseph est au nord-est. Et donc voilà, c'est un endroit, c'est très sec quand on y passe l'été pendant le pèlerinage, on transpire. Et il soulève le rocher et il y a de l'eau. Et alors ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que tout le village y croit, tout de suite. Et donc il monte en procession.
Il y a une preuve en fait là.
Il monte en procession et puis il voit la source. Alors que l'apparition de Marie, elle n'a pas laissé de preuve de son apparition.
C'est vrai.
Voilà, alors que Joseph, il dit pas grand-chose et il laisse une preuve. La fameuse source.
Et là, c'est Jean-Paul II qui parle donc du fiat de Joseph qui vient compléter le fiat de Marie.
C'est ça, oui. Dans la mesure où...
Merci.
Dans la mesure où Joseph a... accepter de faire ce que l'ange lui disait de faire, c'est-à-dire de prendre Marie chez toi. À partir de là, on peut dire que Joseph a accepté de participer au plan divin, qui le concernait lui aussi.
Bien sûr, oui, bien sûr. Et c'est très bien dit dans ce livre, hein, les différentes obéissances de Joseph. C'est rappelé aussi par le pape, dont j'ignorais qu'il avait écrit... Le pape François.
François, oui, il a écrit une très belle page sur Saint-Joseph.
En effet, en effet. Et donc, cette obéissance à tous les songes aussi, ça a l'air évident, mais ça ne l'est pas forcément, d'avoir un songe et d'obéir, dire tu pars tout de suite, parce que,
etc. En plus, il faut se rappeler que Marie revient de chez sa cousine Elisabeth,
oui.
Enceinte, d'accord ? Et oui. Tous, on pense que Joseph imagine que Marie l'a trompée, parce qu'ils étaient mariés quand elle est partie.
Bah, surtout s'il lui avait rien fait lui-même.
Non, mais c'est clair. Or, Joseph a jamais pensé que Marie l'avait trompé, mais connaissant Marie, il voyait qu'il y avait quelque chose de Dieu qui se passait et il voulait pas contrarier le plan de Dieu.
Mais en plus, il a été averti. Moi, je savais même pas tout ça, moi.
En songe, oui.
Oui, en songe.
Et oui, c'est ça. Et l'ange.
Garde Marie.
Il y a ce qu'on appelle les scrupules de Joseph.
C'est ça.
Qui dit je vais la répudier, mais je vais la répudier en secret, parce que si je la répudie en public, elle va être lapidée. Je vais la répudier en secret. Je ne peux pas garder, puisque... Et l'ange vient dire à Joseph, n'aie pas peur de prendre Marie chez toi. Et Joseph dit, il ne dit pas oui, il ne dit rien à Joseph.
Voilà, il le fait.
Mais il le fait, voilà. Donc c'est le second fiat de notre histoire du salut.
D'ailleurs, dans le livre, il est bien noté que Joseph n'est pas bavard, et c'est vrai, Joseph n'est pas bavard. Alors justement, nous avons un auditeur ou une auditrice qui nous dit « Bonjour à toute l'équipe, Cotignac est un lieu avec deux apparitions car il ne faut pas oublier celle de Saint-Joseph. » Alors on est en train de vous obéir, chère auditrice, qui sauf erreur n'était l'objet d'aucun culte avant le XVIIe siècle. En effet, aucune église du Moyen-Âge n'est placée sous l'invocation de Saint-Joseph. C'est curieux ça. Il reste un magnifique petit monastère Saint-Joseph du Bessillon, donc dont nous sommes effectivement en train de parler là tout de suite, et donc avec Pierre Chazeran, qui est donc, je le rappelle, l'auteur de Pères et Pèlerins, 50 ans du pèlerinage des Pères. Nous sommes sur Radio Courtoisie, l'émission La tête hors de l'eau. De Catherine Rouvier. Voilà, j'oublie toujours de nous annoncer, donc cette fois je l'ai fait. Et du coup, eh bien, on va aussi passer un petit bobino dès que j'aurai fini cette lecture. Donc, cette auditrice nous dit « Il en reste un magnifique petit monastère où, il y a 20 ans encore, des bénédictines rapatriées d'Algérie chantaient en grégorien. Belle émission. » Donc, nous allons aussi parler de ça après cette petite interruption.
La gauche cible les associations de droite pour les priver de dons, défiscaliser et veut nous empêcher d'exprimer nos idées, vos idées. Une enquête exclusive de Radio Courtoisie et de ses partenaires lève le voile sur l'hypocrisie de la gauche subventionnée et ses pratiques fiscales douteuses. Du 23 au 26 juin, des révélations en continu sur les sœurs de la perpétuelle indulgence, Médiacité, l'ADMD et l'association Fier and Queer. Avec la publication des articles de l'Incorrect, de l'OGIM, de Boulevard Voltaire et de nouvelles émissions. Restez bien à l'écoute de notre antenne.
Voilà, donc Radio Courtoisie, comme vous l'avez noté, chers amis, et je le dis aussi à mon invité qui est ici, a pris son envol dans le monde médiatique libre, évidemment, qui tente de le rester, ce qui est très difficile. Et donc, nous avons de plus en plus, sur Radio Courtoisie, fait la place aux actualités, aux chats avec des personnalités qui sont dans l'action politique. Mais néanmoins, nous gardons aussi ce qui fut notre première image de marque, hein, c'était, on disait toujours, c'est une radio culturelle associative, et donc nous gardons aussi ce désir d'aller, comme on fait aujourd'hui par exemple, au fond des choses aussi, de ne pas rester uniquement dans l'actualité, d'aller dans des domaines spirituels, historiques, voire philosophiques, de manière à donner aussi cette profondeur et pas seulement de rester dans l'actualité qui nous contraint souvent à des choses, ma foi, un peu ragoûtantes. Donc, merci pour ce message. Et donc, justement, j'allais arriver à 1975, où des bénédictines de Médéa, il y a une jolie photo à la page 64 de leur monastère, viennent en France, donc, avant la fameuse décennie noire d'Algérie 1990-2002, qui a été terrible, mais elles ont dû sentir sans doute que, voilà, que les choses allaient mal se passer. En tout cas, elles sont venues en France, Et elles sont restées jusqu'en 2018, c'est ça ?
À Cotignac ?
Les bénédictines de Médéa, oui.
2018, 2019.
Oui, c'est ça.
Oui, 2018.
Et après, ce sont des Argentines qui sont arrivées.
C'est ça.
Les sœurs Mater Dei, des Argentines.
Exactement.
Mais alors, j'ai été épatée de voir les photos, parce qu'elles ont construit un véritable immense monastère.
Et oui, mais alors, les premières années du pèlerinage, quand on passait au pied de Saint-Joseph, c'était en ruine.
Ah, oui.
Tout était en ruine, et jamais on n'aurait imaginé un si grand monastère qui se reconstruise là. Et ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est la... En fait, elles ont quitté l'Algérie parce que la situation se tendait avec les autorités. Elles avaient de moins en moins de contact avec,
oui.
les villageoises, notamment. Et donc, elles se sont dit, on n'a plus de vocation, on va mourir. Et il faut qu'on fasse quelque chose.
Mais elles ont bien fait. Et Tibérine, c'était quand ?
Tibérine, c'était... oui, c'était beaucoup plus tard, oui. Ouais. Enfin, beaucoup plus tard, non, c'était après.
80.
Donc, elles sont parties avant, voilà.
Oui.
Et en fait, elles atterrissent en France et elles visitent un certain nombre de lieux. Monseigneur Rey leur propose de passer par à Cotignac. Et là, elles disent, on a eu la certitude que c'était là où il fallait qu'on s'installe. Et donc, ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est qu'il y a eu ces deux apparitions à 150 ans d'écart. Mais les deux sanctuaires, Notre-Dame-de-Grâce et Saint-Joseph-du-Bessillon, il y a eu une renaissance pour l'un. C'est d'abord Saint-Joseph, 1978, c'est ça. Et pour Notre-Dame-de-Grâce était quand même desservie un petit peu. De temps en temps, il y avait des prêtres qui venaient. Mais Notre-Dame-de-Grâce...
Mais c'est distant de combien, tout ça ? Parce que moi, je suis passé à Cotignac.
Il y a 3 km entre les deux.
Ah oui, c'est ça. Donc, c'est quand même le même...
Voilà. Et Notre-Dame-de-Grâce est repartie à partir de 1981 ou 82, quand les frères de la communauté Saint-Jean sont venus s'installer. Ça a été le premier prieuré installé en dehors de leur base historique.
Alors, on parlait tout à l'heure de... Moi, j'aime beaucoup aussi ce passage de la visite de Marie à sa cousine, Élisabeth. C'est magnifique. C'est toujours représenté avec la cousine qui met la main sur le ventre de Marie, etc. Et je pensais, en lisant, parce qu'il y a des témoignages, on ne va pas tous les lire, je pensais en lisant certains qu'au fond, Dieu, c'est le patron des enfants impossibles, quoi, finalement. Hein. Les enfants pas impossibles au sens mal élevé, impossibles au sens difficile à concevoir, pour différentes raisons, soit que comme Marie il n'y a pas eu d'homme, soit que comme Élisabeth elle était âgée et qu'elle n'espérait plus enfanter Jean-Baptiste.
Largement ménopausée, oui.
Et puis là dans le livre il y a un copain qui parle de ça aussi, hein, qui a pu avoir finalement son enfant après être venu à Cotignac, c'était pas gagné dans les témoignages.
Oui, il y a beaucoup de... On les appelle les bébés Cotignac.
Oui.
Et il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup de pères en manque d'enfants, de mères en manque d'enfants, qui sont venus à Cotignac. Et le premier bébé Cotignac, c'est Louis XIV. Hein.
Oui, effectivement, voilà. Oui. Ça m'a fait penser aussi au livre d'André Imakin, Le Testament français, où il parle, parce que là, il y a une des conceptions, je ne sais plus laquelle, mais enfin, qui n'allait pas de soi, hein. c'était pas vraiment prévu ni gagné. Et dans le livre d'André Imakin, Le Testament français, il parle de sa grand-mère, si je me souviens bien, qui avait été violée par un soldat russe, qui s'est retrouvée enceinte, qui n'a évidemment pas su qui était le père, et qui a gardé l'enfant. Et c'est très très beau ce livre, parce que voilà, et on a un peu, c'est un peu ce qu'on ressent en lisant ça, alors je me souviens plus très précisément, hein, mais voilà, la valeur en soi d'une vie, la valeur en soi d'un enfant, et une espèce de protection divine qui passerait notamment par Cotignac, certainement par d'autres endroits aussi, mais sur une espèce de protection de ce oui que dit la femme,
oui.
Quand elle accepte, comme disait Jean-Paul II, ce sont des héroïnes, mais quand elle accepte un enfant, même si les conditions ne sont pas réunies, même si le père n'est pas là, même si, etc., etc.
Et puis en plus, Cotignac, c'est la sainte famille, c'est-à-dire qu'il y a Marie, il y a Joseph, et tous les deux ont Jésus dans les bras. Et donc, c'est un lieu de prédilection pour les familles, ça c'est clair.
Oui, mais enfin, ce n'était pas une grande famille. Hein. Là, vous en faites tous 7, 8, 9, 10, mais vous ne suivez pas l'exemple de Marie et Joseph.
Oui, mais...
Ah, oh, je plaisante.
Marie, elle a fait la perfection du premier coup, Elle aurait eu du mal à...
Alors, j'ignorais que le pape François eut fait une année Saint-Joseph.
Eh oui,
j'avoue
que
certains propos de ce pape me déplaisant, je n'ai pas beaucoup étudié ce qu'il a dit, mais j'ai eu tort, naturellement, comme je le vois en lisant ce livre.
Il a fait de belles choses.
Voilà, il a fait cette année Saint-Joseph.
Et puis surtout son encyclique sur Saint-Joseph, quoi, qui est...
Oui, que j'ai lu.
Et qui est pas mal, qui est pas mal.
C'est un nouveau miracle de quotidien que j'ai lu.
Catherine a lu l'encyclique, oui.
Alors, je mets donc... Attends, page 46 et suivante, quelque chose que j'ai trouvé
46
bien.
46 et suivante.
Que j'ai trouvé bien. Il y a plein de choses que j'ai trouvées bien, bien sûr. Hein.
Des petits témoignages, c'est ça?
Ouais, que j'ai trouvé tout... Il y a un joli tableau, là aussi. Très joli tableau. Oui, c'est ça, Emmanuel, Benoît, Didier, Thomas.
Oui, j'ai
Thomas.
Mis quelques témoignages de grâce reçues directement, de grâce matérielle, de grâce... c'est pas des trucs franchement fondamentaux, mais voilà, c'est qu'on peut très bien aller voir Joseph et à Cotignac et demander un certain nombre de choses matérielles. Nous, pères de famille, on a quand même, on peut partager nos soucis avec Joseph sans aucun problème.
Voilà, puis vous les partagez entre vous. Mais il y a des trucs très drôles. Par exemple, Benoît, il voulait un bateau. N'importe quoi, quoi. En plus, il l'a eu.
C'est
incroyable.
C'est marrant.
Non, c'est vraiment très, très bien. Justement, c'est agréable, cette lecture, parce que c'est pas continu. C'est-à-dire, il y a un petit peu d'histoire, il y a des témoignages, il y a beaucoup de choses. Alors, page 55. Là, page 55, on franchit une étape, c'est-à-dire qu'on voit qu'on est passé... Ah, il faut revenir quand même sur le début, les deux qui décident de faire le pèlerinage en 76, c'est ça?
Et oui. Alors en fait, c'est un copain qui s'appelle Jean-Louis, qui avait eu deux enfants, qui étaient nés dans des conditions vraiment, on va dire, catastrophiques. Et la médecine avait conseillé à Françoise, sa femme, de ne plus avoir d'enfants. Parce que
ils étaient handicapés, carrément.
Non, ils n'étaient pas handicapés. Non, ils sont tout à fait normaux, les enfants, mais la naissance était très mal passée.
Ah, c'est la naissance, d'accord.
Pour la maman, oui,
d'accord.
C'est ça. Oui, je me suis mal exprimé. C'était pour la maman.
D'accord.
Et donc, les médecins disent à la mère, désolé, mais il vaut mieux que vous n'ayez plus d'enfants, sinon la prochaine fois, c'est ou vous, ou l'enfant, ou les deux.
D'accord.
Et puis, la nature étant ce qu'elle est, Jean-Louis et Françoise attendent un troisième bébé. Et là, de manière assez étonnante, ils reçoivent chez eux un copain qui, lui, Michel Creuset, je ne sais pas, ça te dit quelque chose, Michel Creuset? Ça faisait partie de toute l'équipe de la rue des Renaudes de l'époque.
Je ne connaissais pas tout le monde. Hein, ouais.
Ah ouais. Et donc,
moi, c'était surtout les garçons.
Un garçon extraordinaire. Il était ouvrier. Il faisait des formations extraordinaires. Vraiment, moi j'ai eu la chance de le connaître. J'en garde un excellent souvenir. Et donc, Michel Creuset dit dans la conversation à Jean-Louis, lui dit, ben voilà, moi, je vais faire à pied le pèlerinage de Saint-Joseph d'Alex, dans la Drôme, à Saint-Joseph de Cotignac. Dans le Var, parce que ma femme attend le septième enfant. Alors Jean-Louis lui dit, mais c'est quoi? Alors il lui explique le vœu de Louis XIII, etc., etc. Et à ce moment-là, Jean-Louis a eu l'intuition que pour que cette troisième naissance, sa troisième naissance à lui, se passe bien, si la troisième naissance se passe bien, il ira à Cotignac pour remercier. Et alors il tombe sur un copain qui s'appelle Michel, et Michel lui dit, Jean-Louis, tu fais tout faux, normalement, tu vas à Cotignac et tu demandes que la naissance se passe bien. Mais toi, tu dis, si ça se passe bien, j'irai à Cotignac.
Ouais, c'est pas bien, c'est un peu un chantage.
Cause toujours, tu m'intéresses. Et donc finalement, il part à Cotignac et Michel l'accompagne. Parce que Jean-Louis a regardé sur une carte Michelin, ex-Cotignac, ça doit faire 12 cm sur une carte, tu sais, une carte routière.
Ouais,
et
ouais.
Il a l'impression que c'est tout droit. Et Michel lui dit qu'il connaît la Provence, lui dit, mais... Parce que Jean-Louis est bourguignon, donc il ne connaît pas bien. Et Michel lui dit, mais c'est pas tout droit, ça tourne, ça monte, ça descend, il y a des tas de chemins partout. Alors Jean-Louis lui dit, bah, écoute, si tu es si fort que ça, tu as qu'à m'accompagner. Donc ils ont fait cette marche, ce n'était pas un pèlerinage hein, au début, c'était une marche. Ils ont fait cette marche pour remercier pour la naissance de sa fille qui s'est bien passée.
Eh oui.
Qui s'est passée naturellement, sans césarienne, sans que personne, d'ailleurs après ils en ont eu encore trois, sans césarienne, tout s'est très bien passé. Et donc, ça a été l'origine de ce qu'on a appelé ensuite, quelques années plus tard, un pèlerinage.
Et là, Tu étais ce premier pèlerinage?
Non, non, moi, je n'étais pas. Il y avait Jean-Louis Michel. L'année suivante, Jean-Louis a voulu y retourner. Il y est retourné avec son beau-frère, Claude. Et l'année d'après, on était 4 ou 5. Parce qu'à chaque fois, Jean-Louis voulait y retourner. Et il nous disait, ouais, c'est vachement sympa, venez avec moi. Donc, nous, on y a été parce que c'était vachement sympa. Voilà. C'était, mais loin de nous, l'idée, au départ, de faire un pèlerinage qui serait récurrent, qui reviendrait chaque année. C'est ça qui est étonnant. C'est que, enfin, d'ailleurs, tout le bouquin le montre, c'est que ce pèlerinage de père de famille qui maintenant est dans le monde entier, bah, c'est Marie et Joseph qui le voulaient.
Et donc, ce qui est incroyable, c'est quand on lit donc, les pages 55 et suivantes du livre, on voit que de deux, ce pèlerinage est passé à plusieurs dizaines de, voilà, de milliers.
Le dernier pèlerinage en Pologne, tu sais combien ils étaient? 100 000.
C'est fou.
Mais bon, c'est les Polonais, hein.
Alors, il y a plusieurs étapes. Alors, l'arrivée des petits gris, c'est les frères de Saint-Jean, les petits gris?
Les frères de Saint-Jean, oui.
Voilà, que j'ai connu, moi, à Aix, qui était dans la chapelle, dans, je ne sais plus laquelle, mais bon, ça ne fait rien. Voilà. Et à Marseille aussi.
Ouais.
Et à Marseille, ils ont une église. Et donc, ils font du bon boulot, hein, je crois.
Ils se sont installés, on a super sympathisé avec eux. Et tout de suite, ça a bien matché, c'est-à-dire qu'ils ont un sens de l'accueil extraordinaire.
Ah oui, ils sont formidables.
Ils sont très, très sympas. Et on s'est retrouvés comme en famille chez eux.
Donc ça a dû donner quand même une dimension déjà différente.
Alors oui et non, parce qu'au début, donc très rapidement, le père Marie-Benoît, alors, je ne sais pas si c'est le recteur ou le chapelain, parce qu'il y a dans chaque truc, ils ont un recteur et un chapelain. Donc, je ne sais pas s'il était recteur ou chapelain, peu importe. Et Marie-Benoît nous dit, il faut absolument que vous parliez de votre marche. Et nous, on lui dit, mais pas question, on n'a pas envie de parler de notre marche. On est entre copains, on reste entre copains. Et vraiment, on était très, 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 très contents comme ça. Et l'année suivante, Monseigneur Madec, l'évêque du Var, vient, préside la messe du dimanche et nous dit, à la fin de la messe, il faut parler de votre marche. Et nous, on lui dit non, Monseigneur, on n'en parlera pas. Donc nous, on a jamais, jamais voulu faire de cette marche qui s'est appelée pèlerinage, je crois, à partir de 1984. On n'a jamais voulu en faire un...
Alors, premier tract de pèlerinage en 84, j'ai
et
noté.
Et voilà, c'est ça.
Effectivement.
Et c'est là où on emploie le terme pèlerinage. C'est marrant, ça veut dire qu'au début, ce n'était pas un pèlerinage.
Oui, c'est
enfin,
ça.
Même si ça avait la forme d'un pèlerinage.
Mais alors, en fait, vous aviez qu'une trouille, c'est qu'il y ait des femmes. Vous êtes un peu comme au Mont Athos. Vous...
Pas du tout, pas du tout.
Je l'ai lu. Il y a des femmes qui ont 86, et encore.
Non, alors, en 86, la femme d'un copain, comment elle s'appelle? Ah, c'est, j'ai oublié son prénom, la femme d'Henri, voilà. La femme d'Henri vient avec un sac à dos, au départ. Et alors, nous, on lui dit, tiens, Monique, tu vas te balader. Et elle nous dit, mais non, je viens avec vous. Alors là, on était.
Catastrophe.
On n'est pas très nombreux, on est 7 ou 8. Donc, cri d'horreur, quoi?
Une femme
parmi nous. Alors on lui a dit, pas question. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que ce n'est pas en 86, c'est en 85, ça. Puisqu'elle a créé, elle, le pèlerinage des mères de famille en 86.
Ah, d'accord.
Voilà, parce qu'elle se lamentait auprès d'un prêtre, Stéphane Marie, et elle se lamentait. Stéphane Marie lui dit, ben Monique, vous avez qu'à créer votre pèlerinage de mères de famille. Et donc, elles sont parties à 5.
Pèlerinage de merde, famille.
elles sont parties à 5. Et nous, alors, on se moquait d'elles. Jamais ça marchera. Ça sera trop long. Ça monte, ça descend. Il fait trop chaud.
Ah, ils sont sous-estimés.
L'année suivante, elles étaient au moins 40. Et je crois qu'en 3 ans, elles étaient plus nombreuses que nous, les hommes.
Ah, vous voyez. Hein.
Donc, on a eu confirmation que la femme est... beaucoup plus généreuse que l'homme, c'est-à-dire qu'elle se donne plus facilement.
C'est comme en foot. Ouais, ouais. Alors, ça s'étend, on va tout dire là, mais ceux qui liront le livre verront que c'est assez extraordinaire. Et je vois apparaître à la page 110 Randol, où j'ai des souvenirs merveilleux,
oui.
Puisque c'est une abbaye tout à fait remarquable. Et alors, ils ont fait un petit village pour les gens qui viennent faire des retraites, et c'est merveilleux. Je me souviens d'un petit âne qui passait dans les rues, je me souviens, c'était vraiment tout à fait charmant. Et donc, j'ai noté Randol, j'ai pas vu quel était le rapport avec votre pèlerinage, mais bon.
Mais il y en a partout en France maintenant. Hein.
C'est
donc,
ça, d'accord.
Le Mont-Saint-Michel, Vézelay, Rocamadour, des tas de chapelles de Joseph et de Marie partout en France.
Formidable,
partout.
Hein, formidable.
Il y a des dizaines et dizaines de pèlerinages et qui se sont faits vraiment... en fait, au départ, ce sont des pèlerins qui sont venus à Cotignac, de loin. Et nous, quand on s'est retrouvés un peu trop nombreux à Cotignac, on a commencé à leur dire allez pèleriner dans
c'est
votre
ça,
coin.
Ben oui.
Mais certains, sans qu'on leur demande, sont allés organiser des pèlerinages dans leur coin. Et le premier, ça a été à Clermont-Ferrand.
Ah bah oui, où était Armel.
Armel, ben oui, c'est Armel. D'ailleurs, ce sont
Armel qui a fait les dessins du
voilà,
livre.
Voilà, c'est ça.
Armel, si tu nous écoutes.
Et Armel qui... en fait, parce qu'à l'arrivée du pèlerinage, comme on était tous provençaux quand on faisait le pèlerinage, nos épouses et nos enfants venaient nous accueillir à l'arrivée.
Et oui.
Et donc, Armel est là avec un copain. Et évidemment, les deux seuls à ne pas avoir d'épouses et d'enfants qui les rejoignent, c'est eux. Et il dit, on s'est retrouvés comme deux... Alors, dans le bouquin, on a mis deux imbéciles, mais je crois qu'il a dit comme deux cons. On s'est retrouvés comme deux cons sans ans. Et on a dit, on va faire notre pèlerinage. Et ils ont fait leur pèlerinage à Clermont-Ferrand. Ça a été la première externalisation, si je puis dire, du pèlerinage. Et donc, à chaque fois, on s'est rendu compte que c'était un pèlerin, père de famille, qui était venu soit à Cotignac, soit à Vézelay, soit à Rocamadour, voilà, et qui ensuite a créé son pèlerinage dans son coin. Et c'est une espèce d'essaimage. On a essayé de faire la cartographie, alors il y en a une, il y a un site internet, on clique de c'est pèresdefamille.com je crois. Il y a une carte de France avec différents points, on cite sur le point et on a les coordonnées de l'organisateur du pèlerinage.
Ouais, c'est
tout ça, c'est
ouais.
Dominique et Tanguy qui ont fait ça, ils ont fait un boulot de Romain, ils ont tout répertorié. Et encore, je suis sûr qu'il doit y en avoir d'autres encore qu'ils n'ont pas pu...
Alors, la deuxième terreur après la femme, c'était les Parisiens. Alors, premier groupe parisien en 1999.
Pauvre. Parisiens. On s'est dit, ils vont mourir, les pauvres. Et c'est vrai que rapidement, ils ont été nombreux. Hein.
Alors, vous avez aussi des pères qui venaient d'Irak. Vous avez eu plein de choses. Alors, ce qui m'a beaucoup amusé, c'est que vous avez fait même un pèlerinage à Port-Camargue. Ça, c'est quand même extraordinaire.
Oui, en bateau.
Le Mont-Saint-Michel, Rocamadour. Ça a dû être formidable, Rocamadour.
C'est magnifique. J'ai eu la chance d'y aller. C'est magnifique. La seule chose, c'est quand on a marché pendant 2 jours pour arriver, on dort au camp des jeunes... Et qu'on va faire parce que tous les pèlerinages, il y a une adoration nocturne du Saint-Sacrement. Et donc, ouais. On descend les marches jusqu'au sanctuaire pour l'adoration. On est déjà... C'est une adoration un peu endormie.
Et, ouais,
et après, il faut remonter au camp des jeunes. Voilà, ça c'est difficile.
Après ça, il y a Ars aussi.
Mmh.
L'endroit où le curé d'Ars sauvait les âmes. Ensuite, alors...
Mont-Légion. Mont-Légion, ouais. Avec Don Paul Denisot.
Ouais. Dans le monde, la Suisse, la Belgique, la Chine, Shanghai, le Luxembourg, l'Italie, c'est fou ça. Dakar, Singapour,
l'Australie,
les USA, Chicago, c'est incroyable,
Mexique,
Chicago,
le Mexique,
le Colorado.
Dingue. Moi, je pense que
la Pologne, oui, forcément la Pologne.
La Pologne, oui, évidemment.
La République Tchèque, l'Égypte, le Mexique, Notre-Dame de Guadeloupe. Et évidemment, Sydney en Australie, c'est fou. Et il y a la preuve, hein, si vous êtes chers auditeurs, vous êtes sceptiques, eh bien vous ouvrez ce livre et vous avez, de la page 142 à 148, vous avez toutes les affiches de tous ces pèlerinages. Incroyable.
Toutes celles qu'on a pu recueillir, ouais. Et c'est vrai que c'est quand même assez extraordinaire.
Alors, page 151, j'ai beaucoup aimé cette... je ne sais pas de qui elle est, du coup, cette phrase. Le bouche à oreille des enfants de Dieu. Je ne sais pas si c'est
ouais.
Toi. C'est toi
Je ne sais pas.
Page 151.
Page 151, le bouche à oreille. Ça me dit quelque chose, mais après, on sait.
Mais c'est, non, c'est très... Non, je voulais le lire, d'ailleurs. Je vais le lire, parce que, justement, il y a une belle... voilà. Ça s'appelle le chapitre 3, les grâces reçues. Il serait trop long et de toute façon impossible d'établir une liste exhaustive des grâces que Marie et Joseph ont répandues sur tous les pèlerins lors de leur pèlerinage. Pour le premier pèlerinage, la raison principale, c'est le réseau d'amis. Viens au pèler, c'est sympa. Aucun marketing, aucun prosélytisme, aucune brochure, rien. Sauf un ami qui parle à un ami. Et quand l'ami vient, souvent, c'est plus pour faire plaisir à son ami qu'autre chose. Ah, il y en a même un qui dit, j'y suis allé J'avais aucune raison d'y aller, j'y suis juste allé comme ça. Et ça marche depuis 50 ans, pas besoin d'une équipe de pastorale. Et tac. Des pèlerinages, pas besoin de tour opérateur ni de clip télévisé, juste l'amitié et le Saint-Esprit fait le reste. Ce point est important. C'est cela, l'esprit fondateur, l'esprit cotillac. Voilà, il ne faut pas le perdre et vouloir professionnaliser nos routes. Alors, ça, c'est très, j'aime bien ce chapitre, hein, les grâces reçues. Première raison, donc, le bouche à oreille des enfants de Dieu. Deuxième raison, le ressourcement spirituel. Le monde dans lequel vivent les pères de famille est très souvent trépidant. Horaire de travail contraignant, pression professionnelle, vie familiale éprouvante, fatigue, accompagnement des écoles, travail des deux parents, temps de trajet, occasions de détente, de loisirs et de silence sont trop rares. Peu d'occasions de prier seul ou en famille. Le monde moderne court après le temps et fait courir les hommes encore plus vite, tout de suite. Le besoin de ressourcement est alors fort pour les baptisés qui aspirent à une vie plus en rapport avec les promesses de leur baptême. Et le pèlerinage devient un temps de ressourcement indispensable dans une année souvent difficile. Troisième raison, retrouver la paix familiale. On sait tous que nos familles sont attaquées et que le démon est à l'œuvre dans les cœurs et les intelligences. Il est à l'œuvre pour casser ce qui est beau, pour contrer le plan de Dieu, pour démolir l'amour et la joie. Le démon rend triste. Il oppose les époux, les enfants avec les parents. Il sème la violence verbale et parfois physique. Il ne supporte pas les familles qui prient. Les familles sont souvent éprouvées et quand on lit plus en détail les témoignages, la liste est longue de tout ce qui détruit la paix familiale. Séparation, enfants sous addiction, jalousie, absence de pardon, chômage, violence, indifférence, susceptibilité, orgueil, méchanceté, mots blessants. On pourrait continuer la liste longtemps et les prêtres qui accompagnent nos pèlerinages sont les confidents de toutes ces blessures. Beaucoup de pères viennent donc d'abord pour demander de retrouver la paix familiale. Quatrième raison, une intention particulière. Bon, bah, soit ça se comprend tout seul. Un enfant qui part à la dérive, etc. Le sexe, la drogue, etc. Dernier point, le plus étonnant, j'ai beaucoup aimé. Il y a beaucoup d'humour dans ce livre, à l'image de son auteur, Pierre Chazeran, qui depuis tant d'années, on va vous dire combien, ça y est, on l'a dit, c'est trop tard, nous fait rire.
Tu vas me faire rougir.
Dernier point, le plus étonnant, certains viennent au pélé sans savoir pourquoi, ça m'a vraiment fait rire. Ils n'en ressortent pas déçus, même si on ne peut pas forcément le traduire en grâce. Et ce sera le premier témoignage donné ici. Alors c'est très drôle, il faut lire ce témoignage d'Alexandre. Mais pourquoi je suis là? Il est vraiment très très bien, je trouve. Alors, il y a aussi quelque chose qui m'a bien plu. Alors moi je dis ce qui m'a plu, il y a d'autres choses qui plairont au lecteur. Certainement, mais je fais la part de ce qui m'a plu, moi. Oui, où sont relatées un petit peu toutes les grâces spirituelles. Et le premier s'appelle « La confiance et l'abandon ». Et je crois que, il me semble, hein, si les féministes m'écoutent, mais ne m'écoutent pas, ça tombe bien, féministes de gauche, parce qu'on est toutes féministes, nous les femmes, évidemment. J'ai envie de dire « La confiance et l'abandon », je crois que c'est plus dur pour un homme. L'homme qui décide, normalement, malgré tout, beaucoup plus, que ce soit dans son travail, dans sa famille, etc. Je pense que la femme, plus naturellement portée à cette confiance et à cet abandon, envers l'homme, en premier d'ailleurs, en fait.
En fait, ce qu'on a expérimenté, et c'est vraiment beau, c'est qu'en général, on démarre nos pèlerinages, qu'ils soient quotidiens, qu'à Vézelay et partout, on démarre nos pèlerinages, et donc on marche une, deux ou trois étapes. Et là, on s'arrête et on fait un tour de table de des raisons pour lesquelles chacun est là. Et à ce moment-là, les cœurs s'ouvrent et souvent les larmes coulent pour des hommes virils, parce qu'on partage nos blessures. Et tout à l'heure, tu me posais la question, pourquoi il n'y a pas de femmes ou...
Oui, mais c'est vrai que vous pourriez difficilement
en fait,
le faire.
Il y aurait nos femmes au milieu.
Non, vous ne pourriez pas.
Ça ne serait pas la même chose.
Ah ouais, c'est sûr.
Et les femmes disent la même chose.
C'est sûr.
En termes identiques de leur pèlerinage à elles. On serait avec elles.
Ouais,
il y aurait moins de partage entre elles.
Bien sûr. Puis on doit tenir un certain rôle vis-à-vis de l'autre qui empêche finalement de se mettre
peut-être,
à nu. Quoi,
voilà.
Complètement.
Peut-être, oui.
Alors, il y a des pages que j'aime beaucoup, c'est la conversion, c'est page 187, donc je rappelle, le livre c'est Pères et Pèlerins, 50 ans du pèlerinage des Pères, à Cotignac donc, de Pierre Chazeran. aux éditions DMM. Cette émission, c'est La tête hors de l'eau de Catherine Rouvier. Voilà. Et donc, à la page 187, la conversion, l'effusion de l'Esprit Saint. J'aime bien toujours penser à un thé qui. C'est une infusion.
Moi, effusion,
ça me... Oui, mais ça me fait penser à une infusion. Je pense que c'est les deux.
L'effusion, c'est.
Mais comme disait Saint Augustin,
l'infusion, ça vient de l'intérieur.
Quoi. Oui, mais c'est les deux, sûrement. Oui. Parce que quand Saint Augustin dit l'Esprit de Dieu imprime, comme on imprime sur de la cire, c'est un petit peu. Alors, c'est Cyril qui dit depuis l'enfance, j'ai toujours cru en Dieu, mais de loin. C'est beaucoup ça. Une foi discrète, presque silencieuse, sans réelle pratique. La messe m'ennuyait, l'église me semblait lointaine. Pourtant, quelque chose en moi est toujours resté tourné vers le ciel, comme une braise qui attend un souffle. Le matin du départ, au milieu de quelques hommes encore endormis, j'ai senti que je posais le premier pas d'un chemin intérieur. Au fil des heures, j'ai découvert que chacun portait une histoire, parfois très lourde, souvent très belle. Marcher côte à côte, c'était déjà prier. Alors ça, cette phrase, ça m'a beaucoup plu parce que ça m'a rappelé le pèlerinage de Chartres. Moi, je suis allée au pèlerinage de Chartres un petit peu sans savoir pourquoi, parce que Jean-Marie Schmitt m'avait tiré par le truc en me disant « Tu viens au pèlerinage de Chartres ». Bon, donc je suis allée au pèlerinage de Chartres. Et j'ai ressenti exactement ça. C'est-à-dire que être côte à côte, c'était déjà prier. C'est-à-dire sentir que l'autre prie à côté, c'est un sentiment qu'on n'anticipe pas. On ne l'imagine pas. Il faut le ressentir.
Il faut le vivre.
Et je me souviens que cette première marche, j'étais à côté d'un ami qui nous a quittés, qui était prêtre, qui s'appelait Duport, Jean-Michel Duport. Et c'est fou comme je sentais, c'était comme si il rayonnait, c'était très très impressionnant. Donc, l'humilité, bien sûr, la confiance, l'abandon, l'humilité, se mettre nu, la conversion... Alors, j'ai mis page 203, humour. Alors, il faut absolument regarder s'il y a la page 203.
Il y a de l'humour.
Il y a de l'humour tout au long du livre, parce que Pierre est plein d'humour. Mais, alors c'est Bernard. Je suis né et j'ai grandi à Marseille, sous le regard bienveillant de la bonne mère. Mon père s'appelle Joseph et ma mère Marie. C'est dire que la Sainte Famille de Nazareth a une résonance particulière pour moi. Mais ça vraiment très très mignon. Et donc il va aussi venir au pèlerinage. Et donc il dit je laissais ma... Ah oui, vers 17 ans, je me suis éloigné de l'église, j'ai abandonné la pratique religieuse. Après mon mariage, je laissais ma femme aller seule à l'église avec les enfants, c'est quand même fréquent ça. Lorsque Bernard m'a parlé du pèlerinage des pères de famille à Cotignac, j'ai été partant, non pas pour la démarche spi, mais comme un ado qui cherche ses limites, voir si j'étais capable de m'avaler 70 km à pied en deux jours, sans entraînement. Ce pèlerinage a bouleversé ma vie. Travailleur solitaire, j'ai découvert ce qu'était une communauté d'hommes. Ça, c'est vrai aussi. Hein. C'est vrai que pour les gens qui ont des métiers solitaires, qu'ils soient prof ou qu'ils soient je sais pas ce qu'il était, maçon, j'en sais rien, eh bien, on n'est pas porté par une communauté, c'est vrai. Sauf celle du dimanche, si on va à la messe régulièrement, mais sinon...
Oui, donc, c'est vrai qu'il y a... Il y a un phénomène que tous se disent, tous se relèvent, c'est la fraternité.
Et oui.
Ils découvrent une fraternité improbable et impensable, parce qu'on vient de tous les milieux, on vient de toutes les origines, et c'est vraiment beau de voir ce creuset là qui aide à...
Alors, est-ce que on avait dit qu'on vous ferait un petit peu de musique, mais l'heure tourne et on aura juste le temps en fait de parler du livre parce que donc c'est de ma faute, hein, c'est parce que comme je l'ai lu, j'ai envie d'en faire profiter et donc je vais dans les détails, ce qu'on ne fait pas toujours quand on interviewe quelqu'un sur un livre. Et donc j'ai beaucoup aimé les grâces de fécondité. Ça, c'est à la page 209. Et ce que j'ai aimé, c'est qu'il ne s'agit pas seulement de l'absence de fécondité classique, c'est-à-dire un couple n'arrive pas à concevoir d'enfants, on se demande si c'est l'homme ou c'est la femme, on cherche, on essaye, etc. Ça, c'est ce qu'on appelle l'infécondité de manière générale. Et là, c'est pas seulement ça, il y a aussi des adoptions.
Ah oui, et c'est marrant parce qu'au début en commençant à écrire ce livre, je pensais à parler beaucoup des bébés Cotignac, c'est-à-dire des naissances physiques. Et j'ai reçu des témoignages... relative à l'adoption, c'est-à-dire des couples qui n'arrivant pas à avoir d'enfants se décident en fait à adopter. Et je me rendais pas compte du parcours du combattant que ça pouvait être.
C'est
pour
très
eux.
Émouvant.
C'est
hein.
bouleversant.
Alexis qui raconte ça, c'est très émouvant.
J'ai relu 10 fois le témoignage d'Alexis,
ouais.
celui d'Elric aussi, et à chaque fois je pleurais.
Absolument, c'est très très émouvant.
C'est magnifique.
Donc j'ai trouvé ça très beau que vous élargissiez effectivement la fécondité, ça peut être aussi l'adoption, tout à fait. Alors ce qui m'a interloqué, c'est page 214, c'est les ex-votos en marbre. Me dites pas que c'est vous qui faites encore des ex-votos en marbre, ça existe encore.
Mais c'est pas moi, c'est les pères de famille, mais il y en a plein partout.
Je crois que ça existait plus, que c'était des trucs
mais
du 19e
si,
siècle.
Mais si, mais attends, tu te rends compte, t'arrives pas à avoir d'enfant, tout d'un coup t'as un bébé. Le gars qui dit, là, je suis en train de lire. J'ai entendu Marie m'a dit, c'est incroyable, la page 213.
Ouais.
213 au milieu, là. Je l'ai entendu. Marie m'a dit, ta femme sera enceinte dans 3 mois.
Ouais, c'est fou ça.
Et le gars, 3 mois après, elle était enceinte.
Ouais, c'est quand même sensationnel.
Et ça, il y en a un même. Je me souviens, je crois pas qu'on l'ait mis dans le bouquin, mais il arrive avec un sac à dos. Il était fatigué. Il avait une année fatigante professionnellement, il est avec un sac à dos, on lui dit, j'ai un copain qui lui dit, bah, attends, je vais te porter ton sac, donc il porte son sac dans le dos, et le sac, le fameux sac de celui qui était fatigué, sur le ventre, il lève le sac, ça pesait un âne mort. En fait, il y avait dans le sac un ex-voto en marbre qui pesait 3 tonnes.
Oui, j'étais très étonné, je ne savais pas que ça se faisait encore.
Eh oui.
Alors, il y a non seulement ça, j'avance un peu parce qu'il nous reste
tourne,
que 12 minutes. Donc, les divorces aussi, page 228. Donc, ça m'a frappé parce qu'effectivement, certains mauvais esprits pourraient dire « Ouais, les cathos, de toute façon, ils excluent tout ce qui n'est pas complètement dans la norme, etc. » Et donc, pas du tout. Hein. On peut aussi considérer que les divorces n'arrivent pas forcément par la faute de la personne sur laquelle ça tombe, premièrement. Et puis ensuite, vous ne jugez pas de manière générale. Vous n'êtes pas, de toute façon, vous n'êtes pas là pour ça. Vous êtes là pour marcher.
On s'est rendu compte, quand on fait nos séances de partage, du poids des croix que portent tous ces pères et ces mères aussi de familles divorcées, quoi. C'est lourd. Et ils ont toute leur place.
Oui, j'ai trouvé que c'était vraiment, vraiment émouvant, les témoignages, justement, sur ces difficultés des couples.
Et il y a aussi le témoignage de celui qui dit que il ne pouvait plus communier, étant il était divorcé, mais il s'était remis avec une... Et le prêtre lui explique qu'il peut communier spirituellement.
Mmh.
Et ça a été pour lui une délivrance. Il pouvait renouer... Il le dit très simplement, avec des mots... Enfin bon, c'est beau.
Alors aussi, les relations père-fils, c'est pas uniquement... c'est vaste en réalité, hein, ce domaine de la spiritualité des hommes. Il y a beaucoup de choses. Les relations père-fils, c'est pas toujours facile non plus. Hein. Et alors, on arrive en fait à la fin, c'est quand même la surprise, à des guérisons physiques. C'est-à-dire que, voilà, il se produit quand même des petits miracles, même s'ils ne sont pas forcément reconnus par l'Église, qui sont des guérisons dont les gens témoignent. C'est très impressionnant. Alors, page 247, j'ai mis témoignage posthume. Oui, ça, c'est assez frappant. C'est quelqu'un qui, malheureusement... Ah oui, c'est la fameuse histoire de cet ami qui se fait tuer par des écolos, par des défenseurs des bêtes. C'est incroyable, cette histoire.
Mais qui se convertit avant.
Et qui se convertit juste avant. Et,
dans la chapelle de Saint-Joseph.
Voilà, et ce récit, et c'est page 247 du livre, donc « Pères et pèlerins, 50 ans de pèlerinage des pères » de Pierre Chazeron. C'est vraiment à lire. Il y a aussi, bien sûr, la chose terrible hein, auquel on est confronté en ce moment à travers tous ces pauvres gosses, c'est la mort d'un enfant. Page 251. C'est là aussi, il y a des témoignages. Alors, il y a aussi le témoignage de Filippo. C'est Filippo par Vincenzo. Je n'ai pas bien suivi là, mais je ne sais pas.
C'est le témoignage de Vincenzo qui témoigne de Filippo.
D'accord, mais... Et donc, de retour du pèlerinage, dès que je suis rentrée à la maison, ma femme m'a dit « Tu as un visage et un regard différent. » J'ai compris alors que ce chemin devait devenir mon rendez-vous annuel. Je n'ai jamais beaucoup demandé, seulement que ma famille aille bien et que Filippo trouve la force de lutter contre sa maladie. Alors, c'est qui Filippo ? C'est son frère, son père, je sais pas. D'accord. Et j'ai été entendue... Ah non, c'est son fils et jusqu'au...
Pardon, c'est son fils.
Oui, oui, j'ai été entendue jusqu'au 23 novembre 2023, quand le petit cœur de Filippo a cessé de battre, donc il avait une maladie. C'est très, très, très émouvant. Alors, il y a quand même une chose que je vais contester, parce que sinon, c'est pas moi, hein, c'est ce qui, oui. fait là, qui fait l'émission.
Sinon, tu vieillirais mal.
Non, non, alors là, franchement, à la page 253, les chefs... Alors, si, c'est bien la page 253, mais c'est le fameux pape François qui dit qu'il ne faut pas de chef. C'est lequel ? Oui, c'est ça. Enfin, c'est pas possible de dire
je
ça.
Je ne savais pas si admiratif du pape François.
Non, justement, je ne l'étais pas. Mais justement, parce qu'il tape sur... Il dit, hein, il ne faut pas de violence, donc il ne faut pas de chef. Bon, à mon avis, c'est quand même une incompréhension.
Alors, c'est un peu dans le langage courant. Il faut dire qu'il y a, ce pèlerinage, il y a pas mal d'anciens scouts qui participe, donc le terme chef de
pèlerin. C'est très bien, chef, enfin.
Chef de pèlerin est venu comme ça.
Attends,
voilà.
est-ce que le pape dirait qu'il ne faut pas une tête pour le corps ?
Mais je croyais que tu trouvais que ce n'était pas bien. Non, j'ai mal compris.
Non, non, je ne trouve pas bien que le pape François dise qu'il ne faut pas de chef.
Ah,
oui, quand même.
Je croyais que tu me reprochais d'avoir dit chef.
Non, pas du tout, justement. Non, non, c'est dans l'encyclique, non, attends.
C'est chef, mais bon, c'est chef, c'est des chefs au sens chrétien du terme, voilà.
Alors, il y a une belle conclusion, c'est à la page 269, la fameuse phrase de Peggy, que peut-être beaucoup de gens connaissent, mais que j'ai plaisir à redire. « Ce qui m'étonne, dit Dieu, c'est l'espérance. Et je n'en reviens pas. Cette petite fille espérance qui n'a l'air de rien du tout. Cette petite fille espérance immortelle. Charles Peggy, le porche du mystère de la deuxième vertu, 1912. » Et donc, la conclusion, c'est la conclusion du livre. Et donc...
En fait, on va tirer du bouquin de comment il s'appelle Benoît de Blanpré.
Ah, je le
lettre
connais.
Au père de famille.
Je le connais pas, mais j'ai trouvé
magnifique.
Que c'était très beau. Oui. J'ai compris combien
magnifique.
Être père est un voyage pour lequel aucun d'entre nous n'est jamais pleinement préparé. Voilà une mission qui ne s'apprend pas à l'avance dans les manuels, mais qui se découvre chaque jour. Voilà une vocation qui s'accomplit à la sueur de son front, comme un artisan qui peine, qui essaye, qui se trompe et qui essaye encore pour parvenir à la joie du travail bien fait. Ce petit pèlerinage m'a donné le désir de poursuivre la route avec vous parce que, paradoxalement, pour beaucoup d'hommes, être père est un chemin de solitude sans soutien. Ça, je trouve ça très vrai. Très vrai. Et quand par hasard, justement, avec la femme, ça ne va pas, donc il n'a pas de soutien du tout, et ça peut être dramatique, la fin. Voici ma conviction et ma joie. Le chemin de la paternité nous conduit résolument vers Dieu. Ah, faudrait l'écrire quelque part, ça. Hein ? C'est vrai.
Ah bah, c'est évident.
La vie de père est une vocation de saint, non parce qu'elle est héroïque, mais parce que la paternité est un lieu privilégié de l'amour du prochain dans la simplicité du quotidien. Oui, mais ça peut être héroïque aussi. Alors voilà, nous arrivons à la fameuse... Alors, le vœu de Louis XIII, on a fait les exercices de Saint-Ignace. J'étais très content qu'il y ait une référence à ces exercices qui sont formidables. À l'origine, ils étaient faits pour les hommes, mais moi, j'ai eu le plaisir de les faire,
ouais.
Puisque maintenant, il y a quand même des sessions pour femmes, heureusement.
Oui, non, mais c'est sûr.
Mais c'est fait pour les hommes, c'est vrai, hein, c'est vraiment, c'est quasi militaire, quoi.
C'était Saint-Ignace, hein.
Mais moi, la phrase qui a changé ma vie, quoi. Le premier jour d'une retraite de Saint-Ignace, c'était le père Marsiac, en plus, c'était un phénomène extraordinaire. Et alors, il ouvre la bouche comme ça, avec ses grands yeux bleus, il nous regarde tous et il dit « L'homme est créé pour louer et honorer et servir Dieu. » Oh mince, j'y avais pas pensé. Moi, je croyais qu'on était créé pour bouffer, pour... tu vois.
Pour faire des émissions radio.
Ah, là, je recommande à tous nos auditeurs, s'ils peuvent faire les exercices de Saint-Ignace, qu'ils n'hésitent pas. C'est proprement extraordinaire. D'ailleurs, Carl Jung, qui était donc spécialiste des phénomènes psychiques, et tiens, a dit qu'il était plein d'admiration devant les exercices de Saint-Ignace parce que c'était une excellente manière d'agir sur, ouais. sur la psyché, en fait. C'est...
Ouais. Et il se trouve qu'en fait, au début du pèlerinage, tous les premiers qui ont fait le pèlerinage... étaient de fervents adeptes des exercices.
Ah ben voilà.
C'est amusant. Hein.
Alors ensuite, lettre apostolique, Patrice Cordis du pape François. Il dit que Joseph était un homme juste et mon expérience, puisque j'ai des garçons, en fait, des fils, mon expérience, c'est que c'est ce qui manque terriblement à un jeune, à un petit garçon qui deviendra un homme, c'est de rencontrer quelque chose de juste. Si un petit garçon est puni de manière injuste, ça va être terrible pour lui. C'est quelque chose dans l'éducation qui est primordial, que j'ai rencontré dans une école de la fraternité Saint-Pie-X, où effectivement, ça peut se trouver dans d'autres aussi, où effectivement le directeur de l'école était juste. Et on sentait que du coup, il y avait une confiance dans ces jeunes garçons qui ont du mal à faire confiance.
Ouais, mais moi, quand je me pose la question de pourquoi ce pèlerinage a fait tant de petits, si je puis dire, je me dis qu'il y a aujourd'hui une crise de l'homme.
Bien sûr.
Pas que de la paternité,
bien sûr,
une crise
bien
de l'homme. Quand on en arrive à pas savoir si on est de sexe masculin ou de sexe féminin quand on est un homme, ça veut dire qu'il y a quand même un certain nombre de
j'allais dire, le pèlerinage est-il ouvert aux trans?
Non, mais il y a un certain nombre de pans de murs qui sont tombés et donc il y a des ruines à relever. Et pourquoi aujourd'hui il y a tous ces pèlerinages de pères de famille et puis toutes ces activités, il n'y a pas que les pèlerinages de pères de famille, il y a tout ce qui est fait aujourd'hui beaucoup par l'Église, mais aussi par les laïcs, qui sont aussi l'Église, hein, mais beaucoup de choses sont faites pour les hommes et c'est que je pense que cette marche de 1976 entre Jean-Louis et Michel, elle était prophétique. Moi, je suis persuadé que et Marie et Joseph se sont attelés à la tâche de relever les pères et de les aider à grandir dans leur vocation d'homme, d'époux et de père.
Absolument. On va être obligé de rendre bientôt l'antenne, mais tant pis, on n'aura pas écouté la chanson, mais ça fait rien. On a été quand même à l'Évangile, et donc dans cette encyclique du pape, il y a cette notion de père juste, il y a cette notion de père dans l'ombre, qui est très important aussi, parce que beaucoup de conflits, enfin d'expériences, de ce que j'ai vu, beaucoup de conflits viennent du fait que le père ne reste pas dans l'ombre, c'est-à-dire que même quand son enfant grandit, il ne réalise pas qu'il a en face de lui un autre homme et que c'est pas la même chose. Que c'est dans cette... Franchement, je dois dire, écoute, franchement, c'est le miracle du jour, parce que je veux dire que le pape François, moi, je ne retenais que l'accueil large des musulmans, ce qui est très gentil, mais bon, je trouvais que c'était un peu
juste. C'est pour ça qu'on a voulu mettre dans le bouquin.
Oui, c'est bien.
Je me suis dit, il faut mettre cette lettre apostolique parce que c'est... Elle est magnifique.
Oui, c'est tout à fait.
Et surtout que, en fait, bon, il parle de Joseph, mais chaque homme peut essayer de s'en inspirer, soit de s'y retrouver, Inch'Allah,
oui.
Soit de s'en inspirer pour être plus juste, plus aimant, plus obéissant, plus tendre, plus accueillant, plus courageux, hein.
Voilà, et donc
plus travailleur, je tourne les pages au fur et à mesure pour
retrouver
ce qu'a dit le pape. Mais
à
c'est
la page
vrai,
291, hein. Si ça peut aider. À la page 291, il dit donc le monde a besoin de pères. Alors juste après, il dit il refuse des chefs. Donc moi, je suis pas d'accord. Je trouve qu'un père peut être chef et qu'un chef peut être père. Mais enfin bon, voilà, c'est pas grave. Ce qu'on retient, c'est ce qu'il dit des pères. Et puis c'est tout. Nous sommes tous dans la condition de Joseph, une ombre de l'unique Père Céleste. Voilà. Ah, ça, c'est quand même très joli. Ben, merci beaucoup, mon cher Pierre. Je suis très heureuse que nous ayons pu faire cette émission. Et bravo, il faut continuer. Alors, on voulait parler d'un autre livre, mais on n'aura pas le temps aujourd'hui, qui était Osons la rencontre.
Oui.
Mais on en a parlé quand il est sorti. Et puis, nous referons d'autres émissions. Voilà, merci à tous les auditeurs de leur écoute attentive malgré la sieste et la chaleur. Et donc, je vous dis à demain. Cette fois, nous passerons au mal.
Merci.
Vous venez d'entendre La tête hors de l'eau dirigée par Catherine Rouvier, diffusée en direct sur Radio Courtoisie, mercredi 24 juin 2026, de 14h à 15h30 et réalisée par Benoît. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libres. Rendez-vous sur soutenir.rc.fr et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5 euros par an. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de ce libre journal. Commandez le CD-ROM pour le prix franc de port de 9 euros ou 6 euros seulement si vous êtes adhérent de notre association. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris.